Bonjour, François Strossard et la belle équipe. Pour un numéro spécial des Papous enregistré en public au studio 105 de la Maison de la Radio, les Papous et le grand ménage de printemps, un ménage rituel qui nous prend tous en mars quand les jours rallongent, que les pollens s'infiltrent dans nos maisons, signe du renouveau, signe qu'il est temps de chasser les poussières de l'hiver, les idées bancales, tout ce qui nous embarrasse, vieux papiers, rêves obsolètes, objets que l'on gardait par habitude ou attendrissement, du balai. La vie est belle au printemps, le printemps, quand se fait un peu partout en France la poésie. Et la poésie, à notre façon, se fera une niche dans ce numéro des Papous. La poésie avec laquelle nous jouerons, parce que non, la poésie n'est pas ennuyeuse. Elle trouvera sa place chez nous avec bonheur et légèreté. C'était le vendredi 3 mars, dans un studio 105 bondé. Place à votre connivence, votre affection rieuse pour nos jeux papous. Et nous, sur scène, avec moi, 11 papous, prêts à tous les calembours et facéties pour vous mettre dans leur poche. Jean-Bernard Pouy, Eva Almassi, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Sophie Divry, Patrice Caumont, Jeanne Carillon, Patrice Delbourg, Odile Conseil, Lucas Fournier et Gabriel Godard pour chanter et nous accompagner au piano. Un numéro des Papous à podcaster sur franceculture.fr. Toutes les photos de la soirée à partager sur Facebook et sur franceculture.fr à la page des Papous du jour. Alors, c'est le grand nettoyage de printemps. Au printemps, on chasse la poussière par les fenêtres, on jette les débris, les nuisances. Et pour cela, quoi de mieux que de faire appel à un vrai professionnel du ménage. Ce vrai professionnel du ménage, c'est Hervé Le Tellier. Je l'ai choisi parce qu'il avait le bon profil. Et lui a choisi d'être quelqu'un de très spécifique dans le ménage. Oui. Alors on va découvrir, vous êtes quelqu'un de décapant, je crois.
J'espère que je ne suis pas trop décapant.
Ah bon ?
À vrai dire, oui, oui, oui.
Vous êtes qui ?
Pour des
vous
raisons
êtes quoi ?
Intimes. Je ne sais qui je suis, je ne sais où je vais. J'ai été fabriqué pour un destin secret. Une chose est certaine, je suis fait de papier et j'ai la sensation d'être prédécoupé. Tout au fond de mon être, je sens une raideur, un cylindre en carton qui servirait de cœur. Nous partîmes 5000 au sortir de l'usine, les meilleurs d'entre nous finissant aux cuisines. Leur avenir à eux est sans ambiguïté. Sur l'un, il est écrit « pour tout type d'évier ». L'autre a triple épaisseur pour bien mieux éponger. L'argument est précis, chacun peut deviner la tâche ménagère ou sa fonction l'entraîne. Mais pour nous, tout est flou et nous ne savons rien. La légende prédit un valeureux destin. On nous a emballés tout au bout de la chaîne d'un léger cellophane et l'on voit au dehors. On nous a mis par 6, c'est marqué « grand confort ». Grand confort ? Qu'est-ce ceci ? Je n'ai pas l'impression d'être si confortable. Je ne suis que question. Pourquoi suis-je imprimé ? Pourquoi la couleur rose ? À quoi bon ce parfum ? Serais-je en cellulose ? Et à quoi bon ce cœur dessiné sur ma boîte ? Qu'en font la neige ? Où va le blanc ? Disait Shakespeare. Ne rien savoir, hélas, il n'y a rien de pire. Et je vis dans l'attente, complètement stressé. Et nul autour de moi n'a même été briefé. Mon Dieu, on nous regarde. C'est une jeune femme, ah non ? Elle choisit le voisin, c'est un drame. J'ai les yeux secs, hélas, car je suis extrudé. Ah voilà, on nous prend. Je n'ai pas bien vu qui. J'avais la tête ailleurs quand il nous a saisis. Et d'émotion ensuite, je me suis évanoui. Je me réveille enfin. Cette pièce est humide. Sombre aussi. Et l'odeur est quelque peu fétide. Mon Dieu, de la lumière. Et un homme est entré. Il s'assied face à moi, il a l'air concentré. J'ai peur. Il me regarde en faisant des grimaces. Ah, s'il pouvait se voir en l'instant dans la glace. Il semble soulagé. Il s'empare de moi, m'arrache un bout du corps, recommence 3 fois. C'est fini. Il s'en va. La lumière s'éteint. Je tente de bouger.
Excuse-moi, oui, c'est trop blanc.
C'est l'émotion. Je tente de bouger, mais cet effort est vain, car je suis empalé sur une fine tige, dans une position qui manque de prestige. Le temps passe, et c'est long quand on n'a rien à faire. Et le canard WC est du genre à se taire. Je compte les minutes, et je compte les heures. Essayez de causer un sani broyeur. Oh, on ouvre. Un enfant. Il a l'air adorable. Mais voilà qu'il me tire le vilain petit diable. Voilà qu'il me déroule et me déroule encore. Mais c'est ce donc affreux. Tu veux donc me voir mort. Et voilà que je suis tout au bout du rouleau. Je suis né bien trop tard et je suis mort trop tôt. Je n'aurais jamais su quelle était ma fonction. Ah, ironie du sort. Et quelle dérision. Je n'aurais pas aimé et j'aurais peu vécu. Mais on m'aura chanté au moins sur France Q.
Je précise que je n'ai rien imposé à Hervé Le Tellier. C'est un libre choix de sa part. Alors, Éval Massy, est-ce que vous êtes quelqu'un ou quelque chose dans le lieu fréquenté par le compagnon d'Hervé Le Tellier qui vient de nous parler en alexandrin?
Apparemment, chez les papous, je suis un petit peu la dame pipi.
Oh bon non, ne vous sous-estimez pas, Eva.
Bah si, à force. Non. Souvenez-vous, pour les 30 ans de l'émission, même si émission prend ici un double sens, j'ai écrit un pamphlet contre les dilemmes. Et voici ce que j'ai pris comme exemple.
Oui.
Tenez, vous connaissez ces gigantesques rouleaux de papier de toilette dans les distributeurs, les grosses bobines. Rien ne se voit à l'extérieur, pas le moindre petit bout qui dépasse. Et vous devez choisir, je tourne vers l'avant ou vers l'arrière. On essaye, sauf que c'est le genre de chien qui ne tire pas la langue. L'extrémité du papier n'apparaît pas, alors que normalement, il y a là-dedans 400 mètres de réserve. Rien à faire, et pour s'y mouvoir, ça tourne. Mais une fois engagé dans la mauvaise direction, le rouleau se rembobine et ça va durer des heures. Le distributeur de papier de toilette ressemble à une boîte noire d'avion. Elle ne livre son secret qu'après une catastrophe.
Dans la salle, Lucas Fournier, Eva Almassy, vous allez partir à la pêche aux mots parce qu'on va lancer un jeu qui sera entièrement improvisé sur place pendant le temps de la soirée par Patrice Delbourg et Odile Conseil. Donc, on vous demande 10 mots. Vous allez les noter. Vous avez le droit à 3 refus en commun. D'accord? Des beaux mots qui permettent d'écrire des histoires.
Monsieur a un mot.
Oui.
Toxin.
Toxin. Ah ben, c'est un joli mot, ça. Vous prenez toxin?
Oui, bien sûr.
Ils prennent toxin, c'est le premier. Eva, de votre côté,
voilà,
un mot.
Voilà, je vais aller vers cette jeune femme.
Je vous propose barguigner.
Barguigner, ah, on l'a déjà eu celui-là, oui, c'est un joli verbe, barguigner. Accepté. Ça vous plaît, Odile?
J'adore barguigner.
Un nom propre, tenez, un nom propre au premier rang.
C'est un nom commun, perfection.
Ah, est-ce que ça existe, madame?
Ah oui, ici.
Vous prenez la perfection?
Bien sûr. Oui.
Alors, un nom propre, il faut des personnages dans leurs histoires. Là-bas, il y a Eva, allez.
Ce n'est pas un nom propre, mais un tramway.
Tramway, pourquoi pas, toxin, barguignier, perfection, tramway, ça va bien ensemble. Un nom propre,
il y a
toujours.
Une seule personne qui a un nom propre.
Alors,
D'Artagnan.
D'Artagnan.
Ah oui,
D'Artagnan.
Ah, mais c'est bien ça, D'Artagnan.
Épatant.
Un lieu, peut-être.
Allez.
Autocloque.
Ça, c'est pas un lieu.
Leclerc.
Oui, comme le général de Haute-Cloque, non?
Vous pouvez nous le resituer un peu?
Absolument pas.
Bah, juste pour moi, apparemment.
C'est un général du XXe siècle.
C'est Leclerc.
C'est le général Leclerc.
Très bien.
Leclerc de Haute-Cloque.
Vous prenez... Leclerc de Haute-Cloque.
Vous prenez
non,
Haute-Cloque.
C'est madame qui était en Haute-Cloque.
Oui. Et sa fille était en colloque.
Alors, vous prenez tout? Pas
non.
De refus?
Non,
pas
Haute-Cloque.
Non, vous ne voulez pas d'Haute-Cloque. Désolé, mais on a appris quelque chose. Enfin, certains d'entre nous, en tout cas.
On a un petit lieu ici.
Ouais, un petit lieu.
Paris.
Oh,
oh ben alors.
Paris libéré par le général Leclerc.
Oui.
Paris, vous prenez?
Oui.
Alors, 3, 4, 5, 6 mots. Encore 4.
J'y vais.
Oui.
Dôme.
Dôme comme un dôme.
Dôme comme les Invalides.
Je sais pas, dôme. Dôme, ça vous va, Odile?
Oui.
Je suis un peu réservée sur le dôme.
Ouais, c'est un peu court.
On remplace.
Oui, on remplace le dôme. Pardon.
Presbytère.
Presbytère, c'est parfait.
Parfait.
Pas trop
fort.
Presbytère.
N'a rien perdu de son charme, ni le jardin
de son éclat.
Un mot.
Trémoulet.
Trémoulet.
De quoi parlez-vous?
Un lieu, c'est un lieu.
Ah, T-R-E-M-O-U.
T-R-E, accent aigu, M-O-U-L-E-T.
Vous pouvez donner le code postal?
46 000.
46 000, merci.
Dans le Lot.
Oui.
Dans le Lot.
Nous saluons les habitants de Cahors et les Lotois.
Vous prenez le Trémoulet, enfin ben, Trémoulet.
Trémoulet, oui. c'est pas loin de mon cul.
C'est oui. Le Trémoulet ou Trémoulet tout seul.
Le Trémoulet, c'est aussi un champignon.
Oui, non, c'est pas.
De la famille des Bolets.
Non, mais la ville, c'est le Trémoulet ou Trémoulet.
Non, mais le Bolet, c'est Ravel, le Bolet.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, s'ils prennent Trémoulet, il reste deux mots. Un personnage de femme, peut-être.
Moi, j'ai un mot synalagmatique.
Pardon?
Non. Non.
Synalagmatique.
Non.
Ah non, ça a été cherché juste avant.
Un personnage de femme.
Elle est une femme.
Ah, c'est pas une femme, mais un nom propre, la poubelle. Va enfin, poubelle.
Poubelle.
Ah.
Pour aller danser.
Oui.
Poubelle, c'est mignon. Ça va très bien avec le thème du ménage.
Et la rue est juste à côté.
Oui, absolument. Vous voulez pas une femme pour qu'il y ait un personnage d'homme, d'Artagnan, une femme, non? Ça vous dérange? Olive. Qu'est-ce que vous voulez, Odile?
On a Olive.
Olive.
Ah, oui. Olive. Carmen, j'avais Carmen.
Bah, Olive, c'est une femme avec,
Olive
avec
de Popeye.
Bravo à la salle, merci beaucoup. Oui, vos mots sont très bien. Très, très bien. Alors, je récapitule. Tocsin, Barguignier, Perfection, Tramway, D'Artagnan, Paris, Presbytère, Trémoulet, Poubelle et Olive. Voilà, ben vous allez vite écrire vos histoires. Et on est en place pour le jeu du bon débarras. Prétexte pour quatre de nos poètes papous. Et parce que mars, c'est le printemps de la poésie. Prétexte donc pour Patrice Caumont. Vous êtes très beau avec votre chapeau, Jacques Jouet. Lucas Fournier, Sophie Divry. Et Jean-Bernard Puy à écrire des doubles quatrains sur le thème du ménage. Alors, j'ai leur double quatrain ici. Ils seront lus par l'un des quatre, mais pas forcément par celui qui l'a écrit. Et ce jeu permettra à trois autres papous, qui sont Jacques Jouet, Jeanne Carillon et Patrice Delbourg, de se débarrasser enfin d'une chose qui leur pèse sur le cœur. Mais c'est une chose qui a son importance dans leur vie, étant donné qu'ils l'ont traîné jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être, j'explique, ça peut être un rêve, ça peut être un problème, ça peut être un objet, quelque chose qu'ils chérissent, mais quelque part ils se disent ce serait bon quand même de lâcher prise et de jeter ça. Alors, c'est un jeu, à tous les coups on gagne. Vous avez compris, c'est un nouveau jeu.
C'est un strip poker.
Alors, je distribue. Passez un texte tout au bout à Jean-Bernard Puy, un à Patrice Caumont, un pour Sophie et un pour Lucas. Donc, il y a quatre lecteurs de 1 à 4. Patrice Delbourg, vous êtes le premier à jouer. Choisissez un numéro entre 1 et 4.
Le 4.
Eh bien, vous aurez le droit à une lecture de Patrice Caumont. Alors, on écoute tous. Et vous avez le droit de donner votre avis dans la salle, bien sûr. Double quatrain, 8 vers, avec titre.
Les uns nettoient et les autres en profitent.
Ah, sur le thème du ménage. Hein.
De sa couche un matin, Attila remarqua que son jasmin chéri avait fait une fleur. Il dit, c'est le printemps, le temps du sécateur. Il sella son cheval et l'Europe attaqua. Il rasa l'Occident et l'Empire romain et envahit la Gaule, ensuite l'Italie, brûla Metz, Orléans, et Milan, et Pavie. Ah, le beau nettoyage, partout fait à la main.
Très joli, non? Qui a écrit ça, Patrice Delbourg?
Je dirais bien que Patrice lit son propre quatrain.
Un argument pour?
Pavie, il n'y a que lui qui peut exhumer la bataille de Pavie. Et puis, il a parlé également des uns.
Oui.
Ça, des choses comme ça, bon, je sens que les autres ne peuvent pas avoir ça en mémoire. Tout au moins pas ce soir, et puis pas avec les temps que nous vivons. Donc je pense que Patrice lit son propre texte.
Qu'est-ce que vous pensez dans la salle? C'est comment? Jean-Bernard Puy? Oui. Ah, eh bien madame a gagné, c'est du Jean-Bernard Puy. Bravo. Vous avez perdu Patrice Delbourg, mais vous avez cependant le droit de vous délivrer d'une chose qui vous pèse sur l'estomac.
Oui, il va falloir que je fasse un petit striptease sur quelque chose qui m'encombre. C'est le fardeau du calembour que j'ai comme un menhir sur l'échine.
C'est vrai.
Depuis ma petite enfance. Quel héritage insupportable. Tout a commencé dans mon landau, à ma première blédine. La layette, nous voici. Avec mon père, homme aimable mais démissionnaire, j'étais tombé dans le chaudron des maigrenouillères. Ses amis appelaient mon géniteur Jean Calendelbourg. Je n'ai fait que ramasser les miettes du patrimoine. Comment ça va, et pantoufle le matin. Santé, mais pas des pieds, le soir. L'homophonie approximative, c'est l'antidote de l'instant heureux. C'est l'antidote du bonheur. De la mufleurie son bolduc, la facétie verbale engendre le conflit dans les familles si elle est mal comprise. Et il y a toujours quelqu'un qui ne comprend rien au calembour, surtout les dames d'ailleurs.
Non, c'est pas faux, moi.
Le calembour isole, exclut. Il met en quarantaine. Homère, Dante, Rabelais, Diderot, Hugo en fourmille. Mais c'est pas une raison. Le manieur de calembour est un braconnier à l'affût. Pas très charitable dans le fond, ni vraiment généreux. Il place ses banderilles et s'esquive dans un fourré. Il aime rien tant que disparaître après avoir lâché sa pointe de fiel. Un peu lâche aussi, un peu fuyard. À bas jour, Meurthe-et-Moselle. En chantier, je m'appelle Teuse. Et voilà, toute la journée, le calembour, c'est une économie d'affect, une nasse puérile où noyer sa mélancolie sans rien engager de son émotion dans un échange somnambule et égoïste. Il évite toute effusion de sentiments. En avançant masqué, on s'épargne la perte de temps, de la compassion. On a un iceberg à la place du cœur. La faribole en guise de solidarité. Exit émotivité, exit simagré. On sait depuis Freud les rapports escarpés que le mot d'esprit entretient avec l'inconscient. Salut, minium. Ave, René. Arrosoir et persil. Ça n'en finissait pas. Jadis, chez moi, on s'embrassait guère. Embargo sur tendresse, à peine si on se frottait le nez. On ne transmettait rien des sensations, on gardait tout dans son garde-manger. Mâchoire serrée, volet clos, un leg encombrant qui progressivement écarta de moi toutes les petites amoureuses, puis mes amis qui préféraient la contrepétrie. Le nom de jeune fille de ma mère était Maury. Toute la journée, mon père claironnait « Ah, c'est pas mon fort, la Maury !» Et avec un clin d'œil dans ma direction, on va pas encore se marier aujourd'hui, mon petit. Chez moi, on travaillait dans la fleur depuis plusieurs générations. Je n'ai pas repris le commerce sur la dalle. J'ai préféré donner dans la fleur de rhétorique. C'est moins bien pour les fins de mois, notez. En avançant masqué, on s'épargne le désagrément d'être pris en flagrant délit de compassion. Pas très gentil, l'homophonie, en vérité. Le calembour vous évite tout sentimentalisme. Je n'ai bientôt perçu la parole de l'autre que comme un segment de mécano. Rien ne faisait sens, je ne percevais que des sonorités qui me permettaient de rebondir à mon avantage en mettant les rieurs de mon côté. C'est moche, c'est injuste, c'est égoïste, je le sais, c'est mon lot. Allô, Win, ici, trouille. Allez, on s'épile et
ouais,
on se fait une
bien,
touffe.
Celle-là.
Elle l'a comprise.
Ah oui, je l'ai comprise.
Ben, voyez que ça progresse de génération en génération. Ma grand-mère l'aurait pas comprise, celle-là. On s'épile et on se fait une touffe. Ah, si je pouvais réchauffer aujourd'hui mes échanges avec mes contemporains, endosser le discours généreux du pèlerin bienveillant, raconter des blagues, tiens, raconter des blagues à table, ça au moins, c'est convivial.
Allez, allez vite travailler. Alors, c'est un peu douloureux de se débarrasser de quelque chose. Et ce qu'on espère, c'est que dans son histoire avec les 10 mots, Patrice Delbourg osera ne glisser aucun calembour. Hein ? Qu'on compte sur vous, Patrice Delbourg. Vous pouvez rechuter, oui, oui, je vous connais, effectivement. Alors, deuxième personne qui va se débarrasser de quelque chose, c'est Jacques Jouet. Jacques Jouet, un numéro entre 1 et 3, puisque nous n'avons plus le 4.
Le 2.
Alors le 2, c'est Jean-Bernard Pouy comme lecteur.
Les noces de poussière ou quand le ménage bat de l'aile. Souvent, pour s'amuser, les femmes de ménage prennent de vieux plumeaux, longs balais à poussière, qui dorment oubliés avec la serpillière parce que l'aspirateur les a mis au chômage. L'une arrache ses plumes avec la pince à cils, l'autre singe en riant la volaille étêtée. Le vieux couple est semblable à ce pauvre ustensile. Personne ne veut plus jamais s'épousseter.
Jacques Jouet, vous avez pris des notes. Qui, parmi vos camarades, a pu écrire cela? Alors, on sait que ce n'est pas Jean-Bernard Pouy. Il vous reste Patrice Caumont, Sophie Divry, Lucas Fournier.
À mon avis, c'est Lucas Fournier qui, pour une fois, a omis de s'occuper de Victor Hugo pour aller vers Charles Baudelaire.
Ah, pas bête. Dans la salle, vous votez pour qui? Pour Sophie. Pour Sophie.
Ouais, c'est la seule qui fait le ménage.
Eh bien non, c'est Jacques Jouet qui a gagné. C'est absolument du Lucas Fournier. C'est la musique de Fournier. Ben, bravo Jacques Jouet. Vous êtes Gigi et vous avez le droit de vous débarrasser de ce que vous voulez.
Mon bonnet.
Ben c'est pas idiot. Hein.
Ah mon bonnet. Ce bonnet, vous savez, ce n'est un bonnet ni B, ni D, ni E, ni même F. C'est un bonnet J. J, c'est déjà pas mal comme taille pour un bonnet. Vous croyez peut-être que c'est pour cette raison qu'il n'y en a qu'un ? Eh bien, pas du tout. Des années durant, quand je le portais, ce bonnet J, je me prenais pour un saint. A-I-N-T, qu'est-ce que vous allez... L'esprit mal tourné. Je l'aimais bien, ce bonnet. C'était mon bonnet de sport d'hiver. J'étais à Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire, c'était l'hiver, je faisais du ski de fond et j'avais froid. J'étais en classe de neige, ma mère me l'avait tricoté en grosse laine noire et blanche avec l'intérieur en fourrure authentiquement synthétique. Mais à l'époque, et telle qu'elle me l'avait, ma mère, tricoté et doublé, non seulement il était doublé, mais il était double. Oui, oui, il y avait deux bonnets J attachés l'un à l'autre au milieu par un crochet. C'était un bonnet JJ. N'allez pas croire que je les superposais tous les deux sur ma tête pour avoir encore plus chaud, ni qu'à cette époque-là j'avais deux têtes. Non, ma mère l'avait confectionné en double en me disant « Imagine que tu skis sous la pluie battante ou sous la neige tombante, ton bonnet sera bientôt trempé. À ce moment-là, tu détaches le crochet, tu échanges celui qui est mouillé avec celui qui est sec, tu ranges le mouillé dans ton sac à dos séchant. Ma mère m'avait fabriqué un sac à dos séchant selon les plans du petit Léonard. » Et ainsi de suite, tu en changes dès que c'est nécessaire, si par malheur il continue d'y avoir des précipitations. Or, à Saint-Bonnet-le-Froid, il faisait vraiment très froid. Bah, on skiait quand même à 1200 mètres d'altitude, et il y avait souvent la bise qui fut venue. Et dans ma classe de ville, comme dans ma classe de neige, il y avait une fille que j'aimais beaucoup. Elle s'appelait Martin. Non, c'était pas son prénom, c'était son nom. Son prénom, sacrée coïncidence, c'était Martine. Martine Martin. Oui, je sais, des fois, les parents, ils n'ont pas inventé la paille coudée. Je suis d'accord. Mais Martine Martin, elle portait très bien son nom et son prénom, seulement elle n'avait pas de bonnet. Sa mère, à elle, lui avait pourtant donné deux bonnets, à elle aussi, dans ses affaires de classe de neige. Seulement les deux bonnets qu'elle lui avait donnés, l'un était un bonnet blanc et l'autre un blanc bonnet. Le premier jour, comme il faisait beau, Martine Martin les avait posés sur la neige et ton sur ton, impossible de les retrouver. Martine Martin, qui commençait à avoir des formes, en plus, avait perdu ses bonnets. Ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je prends mon couteau, je coupe la bride qui sépare mes deux bonnets, j'y, et j'en donne un à Martine Martin. Seulement, il y a un hic. Le soir même, Martine Martin est appelée par ses parents. Son père, qui est militaire, est muté à Saint-Martin dans les Antilles françaises. La famille doit partir sans attendre. Je n'ai jamais revu Martine Martin. Je n'ai jamais reçu de ces nouvelles. Aujourd'hui, comme je suis inconsolable de mon premier amour tué dans l'œuf, j'ai décidé de me débarrasser de mon bonnet veuf.
Oh. Oh, bravo. C'est cadeau, madame. Oh, il vous va très bien, magnifique. Il faut partir au ski avec. On passe au troisième double quatrain avec une troisième joueuse. C'est Jeanne Carillon qui a un peu des problèmes avec elle-même et qui voudrait se débarrasser de quelque chose. Donc, on va voir si vous gagnez ou si vous perdez. Mais de toute façon, vous aurez le droit de vous déshabiller moralement ou culturellement. Alors, Jeanne, entre le 1 et le 3, quel lecteur choisissez-vous ?
Allez, le 3.
Le 3, c'est Sophie qui va lire. Sophie d'Ivry.
L'imagination florissante des poètes exerce une influence néfaste sur leur capacité pratique. Quel est ce souffle démoniaque qui tétanise les souris ? Serait-ce les cloches de Pâques, vibrant, hurlant, telles des furies ? Est-ce un djinn fou, une avalanche, ou la prophétie d'un malheur ? Tais-toi, poète, c'est moi qui branche ce satané aspirateur.
C'est joli, de qui ça peut être, ça ?
Je trouve que Sophie d'Ivry a fait des grimaces pendant qu'elle lisait.
Oui.
Et qu'elle m'indiquait bien que ça devait être elle, parce qu'elle donnait l'impression de ne pas être à l'aise, mais en fait, je suis sûre que c'est d'elle. Je trouve que ce n'est pas très littéraire hein, comme analyse, mais...
Non, pas trop, non, effectivement, Jeanne. C'est bien de vous en rendre compte. Que la salle vote pour qui ? Oh, oui. Comment ? Ben non, c'est Jeanne qui a gagné, c'est du Sophie d'Ivry. Alors Jeanne, vous avez gagné le droit de jeter quelque chose aux orties, quelque chose qui vous pèse, dont vous n'avez peut-être jamais encore parlé.
Mais complexe.
Non, pas vous.
Si.
Si.
Allez. Sur comment te dire adieu. Adieu les complexes, je ne veux plus être perplexe dans mon pieu. Je ne suis pas experte, je fais ce que je peux. Comment m'assumer mieux ? Viens dans mon triplex, jouer un peu. Avec mon cortex, je monte aux cieux. Avec ton latex, fais ce que tu peux pour déclencher le feu. Je sais bien que mon plexus est un peu de travers. Et mon ex Emma court le long de ma chair. Viens sur mon bultex extra moelleux, tester mes réflexes du milieu. Mon matelas est extra large pour deux. Viens visiter mes lieux. Viens visiter mes creux. Je sais bien que la texture de mes bras est râpeuse, mais le textile de mes draps est soyeux. Je jette mes complexes sous les feux des miroirs convexes de vos yeux. Je prends de l'ubex pour chanter bieux. Je vous en fais l'aveu. Mes complexes sont hors jeu. Du moins, j'en fais le vœu.
Lucas Fournier, vous aviez en main le très joli double quatrain de Patrice Caumont.
Et pourquoi vous l'avez dit ?
On peut le découvrir en vrai. Non, mais... Bon. Allez, on l'écoute.
La triste ballade de Poussière, épouse de Ménage Premier et reine de Trace, c'est le titre. Quand le bon roi Ménage eut 40 balais, il fut fort chiffonné. L'époux de Poussière vit la reine de Trace faire des crasses au palais. Elle tapait les tapis de moutons, la bergère. De son corps habile, technicienne de surface, elle lessive le roi, notre reine des Traces. Vers un autre, il aspire qui éponge son âge. Ainsi fut répudiée la femme de ménage.
Ah, très joli. On va passer au moment le plus culturel de ce dimanche papou, le ménage de printemps sur France Culture, avec le roman épistolaire en 4 lettres. Les auteurs des lettres seront successivement Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy, Jacques Jouet et Patrice Caumont. Alors le premier, Lucas Fournier, devait évidemment imaginer une trame d'histoire. Il pouvait s'inspirer de la vraie vie, de la grande histoire. Il avait tous les choix. Et il devait écrire un deuxième à propos d'un troisième, parce que pour des raisons connues de lui seul jusqu'à présent, il ne pouvait pas s'adresser directement au troisième. Quant au troisième, il a écrit un autre, et ainsi de suite. Vous pouvez nous dire, Lucas Fournier, si vous avez voulu sauver quelque chose qui est en perdition actuellement avec ce roman.
C'est tout à fait ça.
Ouais, je l'ai senti, oui. C'est quoi?
Oui, parce que vous savez que dans le grand nettoyage de printemps de l'éducation nationale, on est en train de supprimer le latin.
Hélas.
La moriturie était salutante. C'est dommage.
Ils ont fait grec dans la salle. Ils l'ont
oui, j'ai remarqué, oui, c'est ça. Oui, alors justement, j'ai retrouvé dans la benne à ordures du lycée Cicéron, c'est rue de Rome, je ne sais pas si vous connaissez, une lettre de l'empereur Caligula, adressée à Napoléon Ier. Alors Caligula, c'est le successeur de Tibère.
Oui, absolument.
Il est juste avant Claude et Néron, c'est ça. Alors en fait, son vrai nom, c'est César, comme tous les empereurs. Mmh. Il déteste d'ailleurs qu'on l'appelle Caligula. Donc voici la lettre. MCMXXXV barbarbar. Vous voyez que la date est irréfutable. Et c'est 1938, quand même. Ave Napo. Sum Caius Caesar Augustus Germanicus Pontifex Maximus Tribusiae Protestate Consul Pater Patriae Filiusque Drusi Et Miuris Antoniae.
Traduction.
Alors, après enquête, il semble que le texte soit en latin, en effet, et qu'il s'agisse donc d'une version latine. Donc je vais vous la traduire pour ceux comme ici qui ont probablement fait grec. Moi, empereur, Caius César Auguste Germanicus, pontife suprême, investi de la puissance tribunicienne, consul, père de la patrie et fils de Drusus et d'Antonia la Jeune, je t'écris parce que toi aussi tu es empereur. Et parce qu'entre entrepreneurs...
C'est pas facile à dire.
C'est difficile la traduction.
Oui.
J'avais cru que c'était un gérondif, et en fait non, c'était un ablatif absolu.
Avant, je croyais que c'était un datif.
Non. Et parce qu'entre nous, les empereurs, on se comprend. Asinus, asinum, fricat. Comme disait Tite-Live. L'affaire est d'importance. César n'aime pas les salades. César n'écrit point pour des peccadilles, surtout à un Gaulois. Comme toi, Napo, car c'est Rome, Rome, sweet Rome, et ma personne, persona non grata, qui sont en jeu. Voici qu'un de tes compatriotes a échafaudé un funeste projet, raconté ma vie. Oh, d'autres l'ont essayé. Une fois, ce fut l'un des miens, l'ignominieux Suétone, un ami de Pline le Jeune, qui, quoique j'en eusse, me décrit ainsi. Vultum vero natura horridum ac tetrum etiam ex industrae ferabat. Bref, je suis horrible et repoussant. Il me compare même à une chèvre. Non, il en fait toujours des tonnes, Suétone. Moi, empereur, je pensais avoir enfin la paix ici, ad patres. Quand je ouis dire, oui, qu'un Gaulois, quoique natif de Numidie, annonçait son projet de me mettre en scène. Albert Camus. Nominatif masculin et singulier, deuxième déclinaison. Un de tes sujets, Albert Camus, a choisi, quoi que j'en pensasse, de m'y affubler du nom de Caligula. Or, je m'appelle Caius César Augustus. Caligula est mon surnom chez les scouts, qui signifie petite sandale.
Ah oui?
Oui. Et je le déteste.
On comprend.
Non, mais imagines-tu, toi, Bonaparte, si toute ta vie on t'avait appelé Tong ou Patoga? Est-ce que ça t'aurait botté? Non. En plus, un type qui écrit un livre sur les sandales doit écrire comme un pied. Je sens bien que ton Albert Camus, qui amuse peut-être la galerie, mais pas moi, que ce plumitif psychopathe va dire que je couche avec ma sœur Drusilla, comme un vulgaire pharaon, voire même que je couche avec Incitatus, mon cheval, mais par Jupiter, il me prend pour Catherine II. Moi, empereur, je dis « post coitem animal tristé ». Après l'amour, le cheval ne piaffe plus, comme disait Uccello. Mais il y a pire, cet étranger, cet Albert Camus, veut faire de moi non pas un être mégalo, sanguinaire et schizo, mais une sorte d'enfant égaré, de poète déconcertant, de despote fragile et tourmenté. Bref, il veut ipso facto me rendre presque sympathique. Mais c'est odieux, ça. Moi, je veux qu'on me haïsse, quoi que vous en pensassiez tous. Odérine d'où m'étouante. Je veux foutre la trouille, je veux être un sale type absolu. La peste soit de ce Camus. Napo, je te demande donc d'ordonner à ta créature de renoncer à son idée, ou alors d'en choisir un autre. Des empereurs romains, il y en a un maximum. À part Titus, qui a beaucoup servi, les autres sont disponibles et seraient heureux d'une petite promotion. Othon. Mmh. Othon, c'est bon. Ou Vitellius.
Ah,
c'est pétillant. Hein. Ou même Tibère, c'est super. Moi, empereur, je te serai gré de ce que tu feras, toi, empereur, toi-même, tu coque mi fili, pour épargner à mon front glorieux l'ignominie mièvre dont ce Camus veut me flétrir. Sinon, je sens que tout cela va me mettre en colère, et comme tu le sais, ira brevis furor. La colère est une...
mauvaise conseillère.
Courte folie, non mais écoutez, une courte folie. Oui, je crois que c'est mieux d'abandonner le latin. C'est signé...
j'ai fait qu'un an.
C'est signé César, vive Valéque, avec un petit post-scriptum. L'empereur n'est pas manchot, et si tu n'obtempères pas, je te ferai connaître au Napo les Caliguli de Caligula, car quand Caligula fâché, lui toujours fait ainsi.
Alors Napoléon, c'est vous, Jean-Bernard Pouilly.
Oui.
Qu'est-ce qu'il en pense de cette lettre de Caligula? Il doit être un peu étonné quand même, non?
C'est un Corse.
Ouais.
Faut pas trop les énerver quand même.
Hein? Donc il écrit à qui, lui?
Alors, il va écrire à Camus, mais la lettre est datée.
Oui.
MCM XXV 3 bar, c'est-à-dire la même date. Cher Albert Camus, j'ai appris par les gazettes que tu t'apprêtais à écrire une pièce de théâtre s'intitulant Caligula. Comme disait ma vieille chef de mer, et un gâtive au carne au coin d'Oquista, c'est le fisque. N'est pas bon chien celui qui prête oreille à tous les sifflets. Malgré tout, je dois l'avouer, cela me choque un peu. Crisis nervorum apparecit, comme l'écrivait Sénèque. Tu sais bien que dans l'EHATC, notre association des empereurs honteusement acculés de dictateurs criminels, il est difficile de maintenir une certaine jovialité. Nos pères, collègues pusillanimes, aventuriers du négatif, ayant déjà à souffrir de nombreux assassinats, suicides et défaites. Saint-Père proposare imagem positivam, rappelé incessamment Tacite. Et Caligula, entre nous un sagouin, un crétinus diabolicus, ainsi que le qualifiait Sénèque, n'est pas vraiment l'exemple à suivre, ni le héros à fêter. Il a une certaine propension à faire n'importe quoi. Déconnare at maximum, note simplement Suétone. Et si jamais on se moque de lui, si jamais on applique sa philosophie, qui est celle d'un vrai dingue, on s'expose à la vindicte et au crachat de l'histoire. Or, cher Camus, je te connais un peu. Tu es comme moi, fils de Méditerranée, et tu sais tout cela. Tu es du genre à faire de Caligula un poète romantique, qui joue du luth en admirant les clématites, qui pousse sur l'Aventin, ou même un incompris, comme l'autre fondu, là, qui déclame des vers pénibles en regardant Rome brûler. Ce n'est pas que je te demande de le charger un brin, ou, comme précisait Tite Live, Pacitus au probis, supra cretino testae. Si on le titille, il est capable de faire le GR20 à cloche-pied. Ça risque de niquer la vie interne de notre association pendant plusieurs années. Caligula sera même capable, sous le coup d'une colère froide, en latin ira surgela, de nous accuser d'avoir mangé un citatus, son cheval bien-aimé. Plaute s'en est moqué en écrivant « Milior incitatus stecum tartarem ». Je te demande expressément de l'oublier. Lâche asta. Pour cela, je m'offre en pâture. Prends-moi comme sujet, car je lui ressemble quand même un peu à un nabo sanguinaire, un éjaculateur précoce, un fanat des grandeurs, un fils à maman, un fanat des étalons, un drogué des honneurs. N'oublie pas qu'à l'école militaire, on me surnommait la peste. Tu peux m'en mettre une autre couche, je m'en moque. J'ai déjà tout vécu, tout entendu, tout supporté. N'oublie pas que j'ai une patience d'enfer, Grouchil sait bien, et que j'ai vécu quelques années entouré de ces chiens d'anglais, Canis rosbifus, comme disait Néron, qui m'appelait la grenouille gastro-entérique. Aussi, ce que tu pourrais écrire de moi, je m'en moque. Comme on dit chez moi, à Ayatch, parla, parla, non est que brucio vecchio. Mon cher Camus, ne sois pas étranger à mon problème. Si tu consens à me faire cette faveur, tu en seras amplement remercié. Je peux te nommer roi d'Oran, maréchal de boulevard, te refiler Joséphine, qui est ma belle pezzo di donna, qui vaut un harem à elle toute seule. Oublie Caligula, impérator bipolaris, comme le nommait Cicéron, qui ne vaut rien face à l'histoire. Patri Petam versus Storiam, remarquez Pline le Jeune. Alors que moi, c'est plus sérieux, j'ai quand même mis le feu à toute l'Europe, y compris Moscou. Il y a Hitler qui a fait pareil, c'est qu'un copieur. Oublie ce gofou de Caligula, et ton art s'en sortira grandi. Et je peux aussi te filer Marie-Louise, un vrai cougar, comme on n'en fait plus. Si Simurotti, nous avons rompu toute relation. Je sais aussi que tu es sur le point d'écrire un roman sur un type qui s'ennuie sur une plage. Tout ça parce que sa mère est morte. Bon, c'est vrai, c'est la pire des choses. Amam. Amamakar. Bon. Ça, c'est un sujet valable. Moi, les plages, même celles du Liamone, ça me fout le bourdon, d'autant que je ne sais pas nager. Mi fa l'unfia, toujours les essuies froides. Allez, pace e salute, Napo.
Jacques Jouet, c'est vous donc qui avez reçu cette lettre. Vous êtes Camus, Albert Camus lui-même.
Albert Camus, oui.
Oh, je suis vraiment heureuse de faire votre connaissance. En vrai, quoi. Alors, vous écrivez à qui ?
Eh bien, j'écris à Sextus Tarquin.
Ah bon ?
Fils de Tarquin le Superbe, ouais. Lucius Tarquinius Superbus, dernier roi de Rome, qui était bien le fils de son père dans le genre Crapulus Crapuli, d'ailleurs. Ouais. Ave Tarquin. C'est l'un de tes filii qui t'écrit de Tipaza ce jour et ce séjour béni des dieux solaires. Sache que je suis bien embarrassé malgré la douceur de la Mare Nostrum, comme disait sur sa galère le commandant Cousteau, et la chaleur insérée dans les ruines du temple de Minerve. Prête-moi ton oreille, Tarquin, et ton attention. Toi, roi de Rome, sache que le père d'un autre roi de Rome, Bonapartus, Bonaparti, Bonaparte, Bonapartum, comme disait Félix Gaffio, le bienheureux. Bonapartus vient d'exercer ses pouvoirs abusifs en me déconseillant, ce qui équivaut à une interdiction absolue d'écrire à ma tragédie Caligula pour la remplacer par quelque Bonaparta. C'est injuste, infâme et inacceptable. Mais je me soumets, comme Sisyphe, car non sapere quid advenit aux audacieux, comme dit Catulle. J'ai donc décidé de me rabattre sur une autre figure dont la réputation de tyrannie et de cruauté est particulièrement avérée, toi, Tarquin le Petit, digne fils de Tarquin le Superbe, toi qui as si abominablement violé Lucrèce, non pas le poète, mais une belle femme romaine. Je ne t'apprends rien, je le sais, mais je le précise pour le public. Toi, Tarquin, sache que je suis très embarrassé. Car si je disposais d'une considérable documentation sur Caligula grâce à Suétone, c'est beaucoup moins riche avec toi. Je ne crois pas que Shakespeare, outre-Manche, qui a voté pour la sortie d'Albion du monde romain, soit si fiable qu'on le dit. Aussi, Tarquin, réponds-moi. Te conjuro, comme dit Catilina. Je ne te demande pas des détails immondes sur ton crime lucrétien, mais sur tous les autres. Comment tortureras-tu, Tarquin ? Préféreras-tu la baignoire ou la plume de corbeau sur la plante des pieds ? Le sérum de vérité ou les petits bouts de bois dans les oreilles ? Ton supplice favori était-il de Tantale ou de Prométhée ? Ah, Lucrèce, Lucrèce, on se souvient plus d'elle que de toi. On dit le viol de Lucrèce, on ne dit pas le viol de Tarquin. Et nunc mane inte, comme disait Gide.
Ah bon, ah oui, c'est normal. Oui.
Que j'ai vu encore la semaine dernière, il parlait difficilement. Je t'en supplie, respondimi, Tarquin, comme disait Da Ponte. Sinon, je n'écrirai jamais de tragédie. Et c'est ça qui en serait une. Camus.
Oh, belle lettre. Alors, je me tourne vers vous, Patrice Comment. Vous seriez Tarquin lui-même ou pas ?
Eh bien, non.
Ah bon ?
Eh bien, non.
Je suis Cicéron, mais oui. Je suis l'avocat de Tarquin, bien sûr.
Ah bon, ah, évidemment.
En tant qu'avocat.
Oui.
Et donc j'écris à Caligula.
Il y a l'en-tête du cabinet
oui,
d'avocats.
Sur une tablette, c'est pas oui. Un iPad, hein, c'est des tablettes de cire. Hein.
Ouais.
Marcus Tullius Cicéron et Fauderchus associés, docteur en droit romain, avocat à la Curie. Mmh. Ave César Germanicus, toi dont nul Praxitèle, nul Pictor, nul Selfie ne pourrait figurer la tête d'Auguste. Tarquin m'a fait porter un courrier par esclave, bien affranchi. Avec en pièces jointes ta missive Furiosa, écrite sans doute un dies irae. Tu ne veux plus un surnom ridicule de Caligule, alors rendons à César ton nom de César. Délasse ta Spartiate, desserre la toge et respire. J'ai en main toutes les pièces du dossier Camus. Non solum, sommes très forts en droit des affaires d'impérator et de dictateur. Cède encore, sommes hyper spécialisés tyrans. N'oublie pas que si Tarquin a retrouvé sa superbe, c'est que dans l'affaire tentative d'agression à caractère sexuel sur la personne de Lucrèce, j'ai obtenu le non-lieu. Ma plaidoirie, pro-Tarquino, porta l'opprobe sur Lulu l'allumeuse, qui, violant la loi Duralex sans Durex, et offensant les dieux Lar et Hilar, se baladait en Minitos Versachis, String Armanitus et Coturne à aiguille. Fait avéré grâce au témoin Botticelli qui filma la scène avec son smartphone. In fine, itacuique, acquitté, sur ses deux oreilles dort le Tarquin petit quinquin. Comme dit Catulle, eiusdem gujonem non tarquinum taquinare, taquine le goujon, pas le Tarquin. Dans l'affaire Caligula versus Camus, notre impériale clientèle est triple. Tarquin le requin, Napo le léonin, et toi, le divin jockey d'Incitatus, sans tort, sans reproche. Trois monstres qu'Hercule lui-même ne saurait abattre. Cusque, tandem, Caligula, douteras-tu de notre confiance? Roulons plutôt en tandem, l'union fait la force. Syndicare, humanum est. Par Junon, brisons ensemble la lyre funeste de la petite peste qui veut souiller ta mémoire par une bio mensongère au mépris de ton droit à l'image. Attaquons Camus en diffamation. L'orgie est à Rome ce que McDo est à Lutèce. Il n'y a pas de quoi faire un plat dans l'assiette. T'as la libide, ta libido, dépravé, César. On va lui remettre les ides en place à l'homme révoltant. Il ne sera pas la noce, l'adepte du primum vivere, philosophari une autre fois, qui nous gonfle avec ses outrances. C'est lui qu'on va dégonfler pour qu'il se métamorphose en outre d'eau vide. Nous allons passer l'outre et l'amphore pour damer le Scipion à cet Africain, ce merguez du Dasein, cet ablatif du plumitif. Un peu trop juvénile, le juvénal. Ce pied, plus que sombre, va voir combien il est pericoloso de se sporgésie sur le passé de l'impérial. Le passé de l'impérial, Aragonus dixit. Pour le croque-boulette à sa maman, plus dure sera la chute. Il n'y a pas de remonte-pente à la Tarpéienne. On n'est pas chez Sisyphe. En vendant l'exclusivité des droits de ton biopic à un autre dramaturge, nous l'avons court-circuité le nez plat. Nous avons signé une licence exclusive avec Marcellus Pagnolus. Citoyen libre de Massilia, on reste sur la Mare Nostrum, là où est plus belle la vie. Exit le Titus à la racine, Brexit les Britannicus, bye bye le Camus Nobilis. Avec Marius, on va lui fendre dans le cœur et lui prendre son billet sans retour pour type hasard. Bucolique, il se réveille Virgile au champ, il finit vigile chez Auchan. Horace, livre 2, satire 3. Chez Pagnolus, sur l'antique port, les aruspices carburopastis et ad Augusta per Angusta, pour Auguste il y a de la langouste, peu cher. Avec ce Plaute de l'Estac, ce Terence de Provence, le scénario sera plus que romain, il sera romarin. C'est pourquoi nous l'avons nominé pour un César, mais un César pur Jules. Tu verras, ce sera enfin César le retour en Ligue 1. Tu auras enfin ta place à l'Olympe de Marseille. Plus de Caligula, mais de la cagole et de la farigoule. Pagnolus, on l'a même signé pour une trilogie. ce sera Panis et Circenses, du Tite-Live, mais en live. Avec lui, ce sera Ave César, mais avec l'accent. Et le Camus, on le mettra Fanny.
Alors, on va retrouver nos 10 mots pour des histoires. Vous les avez vus travailler, ils étaient concentrés, bien, bien dans leurs histoires à raconter. On peut, Odile Conseil, rappeler les 10 mots qui nous avaient été offerts par la salle. 10 mots assez beaux, ma foi, pour certains.
Nous avions donc le Tocsin, Barguignier, Perfection, Tramway, D'Artagnan, Paris, Presbytère, Le Trémoulé, Poubelle et Olive.
Voilà, Patrice Delbourg, on va commencer par vous. C'est vous qui avez eu le moins de temps. Je vous passe la grenouille. Vous soulignerez à leur passage les mots ?
Absolument.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait ? D'abord, quel est le mot qui a déclenché l'envie d'écrire, l'envie de l'écrivain ?
Tramway.
Tramway.
Oui, tramway, le désir du tramway, et puis le Paris,
oui.
le tramway qui entoure Paris,
oui.
qui passe à la porte de Versailles. Et oui. qu'est-ce qu'il y a à la porte de Versailles ? Le salon de l'agriculture.
Ouais ! Allez, on vous écoute.
Je suis depuis 3 heures dans la plus grande ferme de France. J'en peux plus. J'ai écrasé 4 poussins. Je suis sur la mauvaise ponte. J'ai renversé une ruche. J'ai glissé sur une bouse endormie. Un tocsin bat entre mes tempes. Mon cœur est un colis piégé. Je réponds à une enquête d'un jeune horticulteur qui ressemble à D'Artagnan. Cette enquête dit « Un sabot sur deux est-il de gauche ?»
Plusieurs détentes.
Mais oui. qu'est-ce que je fais là ? Archambault m'a dit qu'il m'attendait dans le coin des Ovins, en descendant du tramway. Pas trace de Louis Archambault. C'est pourtant son job, c'est lui l'élu rural, le marathonien du terroir, et même...
Du fond de terroir. Mais je croyais que vous étiez débarrassé de vos calembours.
Non, je vois que je rechute. Ça me reprend. Je l'accompagne juste, ce pauvre Archambault, pour qu'il ne se fasse pas trop alpaguer par les producteurs de choux-fleurs qui sont bien capables de vous risseler la moustache sans barguigner. Moi, je ne suis qu'un gandin urbain emprunté, parachuté soudain sur la paille. La culture, c'est pas mon truc. J'ai jamais dépassé les périphéries. Je suis aussitôt pris de vertige, de vomissement. Le silence des prairies m'angoisse, les armes des visages, les épouvantails me veulent du mal. Rien ne vaut. Paris ! Paris, ces pots d'échappement, ces klaxons, ces rats crevés. Paris, toujours Paris, mon humus, ma glèbe, mon compost. Il faut pourtant tenir le coup entre moult dégustations et j'ai pas la cellule hépatique pour. On me défonce au Madiran, on extirpe d'une poubelle réfrigérée un tsunami de tariquet. La bière à 7 du mat, le blanc limé à 8. Cépage et sans pitié. On me murmure à l'oreille des propos qui m'ébranlent. Pendant que les paysans se suicident, les politiques se pavanent. Je me réfugie dans la bauge à cochons. Enfin, un petit groin de fantaisie. Qui vivra, verra.
Il est incurable, alors. Calembour, 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 non.
Un petit porcelet me décoche une ruade dans les... olives. Je titube dans les stands. Soudain, quelle beauté cette encolure taurine. Un vrai Picasso. C'est un point de bétail, peut-être. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je suis groggy dans les cornes. Quelle est la date de la bataille de Bovine ? Allez, roulez, génisse. Une jeune hôtesse native de Trémoulet, dans le Lot, fort bien poumonée, ma foi, m'offre une tranche d'émental. Pour le trouble mental, j'ai déjà ce qu'il faut. Elle me sourit. Ah, labour, toujours labour. Le crottin me prend à la gorge. Décidément, il y a des starlettes au hara.
Elle est jolie, elle est très jolie, celle-là. Arrête-tu.
Changement de pécor. Tintade, dindon, font les malins dans une cour de faux. Presbytère. Je titube sur un vacherin, je vacille sur un chabichou. Pavillon 4, porte D. J'enfile un gant de vaisselle en caoutchouc pour mettre le doigt dans le cul de Fine.
la mascotte de cette année. Vous savez, une splendide vache de race bretonne pie noire, race rustique de 6 ans, très fromageable. Je lis le prospectus. Je m'approche à petits pas de la croupe de Fine qui touche à la perfection. Je l'ai vu faire par quelques ministres et présidentiables. Ce geste est très prisé, mais je m'y prends mal. Mon index se rippe, la vache se retourne, elle me dévisage. Qui a osé offenser son postérieur? Qu'il malmène le fion.
Ah. Ouais, carton, carton.
Elle appelle ses gardes, on me ceinture, on m'évacue. Le lendemain, ma photo à la une de tous les journaux. Un forcené a voulu s'en prendre à notre Fine, notre petite Fine toute simple.
S'en est pas mal sorti, hein, quand même. Non, parce qu'ils n'étaient pas si faciles, les mots, hein, à glisser comme ça. On va passer au Odile Conseil. Tiens, rendez-moi la grenouille, Patrice Delbault. Vous avez besoin de la grenouille ou pas?
Non, Odile. Merci.
Non? Bon. Quel est le mot qui déclenche l'aventure romanesque?
Eh bien, c'est le trémoulé. Alors, sachant que c'était dans le Lot, je me suis dit que c'était pas très loin de la flotte. Oui. Et je suis partie en bateau.
Ah ouais? Et vous avez choisi une forme spéciale?
Oui, oui, j'ai mis une rime à chacun des 10 mots.
Wow.
Pour en faire un rap.
Ah, mais c'est formidable, ça.
Trop ça s'appelle forte. La pêche au trémoulé.
Oui.
On était à la pêche, parti du trémoulé, sur un rafiot pourri, tout juste bon à couler. Quand je pense qu'hier encore, derrière le presbytère, je jouais à l'épée avec mon pote Robert. J'étais un vrai Zorro, je me voyais d'Artagnan. Oui, je sais, ça vous semble, disons, un peu gnangnan. Mais tu vois, dans ma vie, je veux de la perfection. Je serai comme mes héros, j'en ai une collection. Puis un homme est venu, descendant du tramway. Il me dit, viens, suis-moi, me balance un caouet. Il me traîne jusqu'au port, parmi les mariniers. Il me redit, fissa, viens donc, sans barguigner. Et là, au bord du quai, j'aperçois sa poubelle. Sans succès, j'ai cherché à fuir dans une ruelle. Je pensais qu'à une chose, retourner à Paris. Je me suis senti mal, j'ai pâli, j'ai verdi. Il m'a dit, oh ta tronche, mais quel beau verre olive. Le moteur a cassé, et voilà, on dérive. Final, on s'est craché sur un grand banc d'oursin. C'est pour ça qu'à présent, on entend le tocsin. Oh.
Ils sont forts, non? Parce que nous, on a fait des choses pendant ce temps. Mais oui, travaillez. Bravo. Les papous pour un grand ménage de printemps en public au studio 105 de la Maison de la Radio, c'est fini. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, Romain Lenoir, Emmanuel Arminghe, attaché de production Marie Dalquier. Un numéro des papous à podcaster sur franceculture.fr. Pour les photos, direction Facebook ou la page des papous du jour sur franceculture.fr. On se retrouve dimanche prochain de 19h à 20h, horaire d'été. Passez une très belle soirée.
Quoi?